Monsieur Richard Ames. Des vainqueurs triomphants. Merci, Dr. Scott, et salut à tous nos auditeurs de par le monde. C'est formidable de se retrouver en famille, et nous espérons que les jours des pains sans levain ont été pour vous une source de joie et d'inspiration, des jours pleins de sens. Selon l'endroit où vous êtes, pour certains d'entre vous qui nous écoutez en ce septième jour des pains sans levain 2020, c'est tôt le matin, alors que pour d'autres, c'est peut-être tard le soir. Heureusement que Dieu est intervenu pour que notre retransmission puisse avoir lieu. Je me demande quelle fut votre attitude lorsque nous avons tardé à être connectés. Cela me rappelle Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, où nous lisons « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. C'est là ce que Dieu attend de nous. » Le premier jour des pains sans levain, M. Weston avait donné un sermon inspirant intitulé « Leçon tirée de l'Exode ». La puissante leçon qu'il nous y a donnée se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, si vous voulez bien vous y reporter. Nous allons peut-être revoir des versets que vous avez lus durant les pains sans levain, mais qu'importe, revoyons-les. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Étonnant, on dirait que cela s'adresse tout particulièrement à nous qui sommes parvenus à la fin de l'âge. Le fait que Dieu nous donne ces festivals annuels, ces jours saints annuels, nous procure assurance, paix et stabilité dans le monde fou où nous vivons. Quel merveilleux cadeau que Dieu nous fait à travers ces festivals, et en particulier ces jours des pains sans levain. Nous avons ainsi observé le premier jour saint annuel, puis, lors du sabbat hebdomadaire qui suivit, ici à Charlotte, M. Jonathan McNair a donné un sermon intitulé « Changement rapide et changement progressif ». Il nous y a donné des directives sur la manière de gérer des changements rapides tout en pratiquant des changements réguliers et progressifs tout au long de notre vie. Veuillez maintenant vous tourner vers Matthieu chapitre 4, où vous découvrirez que Dieu nous donne parfois des opportunités auxquelles nous devrons réagir rapidement et prendre une décision. Comment réagiriez-vous en pareil cas? Ici, dans Matthieu 4, Jésus voit ses deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 19. Matthieu 4, versets 19 et 20. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Notez comment ils réagirent à cette invitation. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Est-ce là comment vous avez agi quand Dieu vous a appelé? Poursuivons, verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Comment ceux-ci ont-ils réagi? Ils étaient avec leur père, et ils pêchaient, voyons la suite. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Comment réagirions-nous? Comment avez-vous répondu à l'appel de Dieu lorsqu'il vous a appelé au salut? Vous êtes-vous alors donné au Christ, comme nous l'avons entendu à l'occasion de cette sermonnette d'offrande du dernier jour saint, dont le titre était « Donnez-vous au Christ ». Il y a ainsi des individus qui se donnent au Christ, mais dans le livre de l'Exode, nous voyons se manifester une autre sorte d'attitude. Les Israélites ne voyaient pas le grand plan d'ensemble, et c'est probablement la raison pour laquelle ils n'ont pas suivi Christ, contrairement à Pierre et à André, Jacques et Jean, qui n'ont pas un instant hésité à le suivre. Cela nous permet d'apprendre de leurs erreurs et ainsi éviter de les commettre à notre tour. M. Weston nous a encouragés à lire la brochure de Dr. Meredith intitulée « Votre ultime destinée ». C'est une brochure tellement inspirante. J'aimerais en lire quelques passages tout à l'heure. Lorsque nous pensons à notre vocation, les festivals annuels, les jours saints, révèlent notre ultime destinée et comment nous l'atteindrons. La leçon numéro 34 de notre cours de Bible par correspondance est intitulée « Votre part dans le plan directeur de Dieu ». C'est incroyable, tout ce qui est disponible sur Internet. Si vous comprenez l'anglais, rendez-vous sur Google et tapez Ambassador College Bible Correspondence Course, Lesson 34, et vous l'aurez aussitôt sur votre écran. Laissez-moi maintenant vous lire un extrait de cette leçon, car il est très important de comprendre la signification des jours des pains sans levain. Il y sera question de votre part dans le plan magistral de Dieu. À la page 1 de cette leçon, on peut lire, et je cite, « Vous êtes probablement familier avec le dicton « Jésus-Christ a mené une vie parfaite à votre place. Il ne vous reste donc plus rien à faire que de croire en lui. » La plupart des ministres disent que la loi de Dieu a été clouée sur la croix et qu'il n'est donc plus nécessaire d'observer les 10 commandements de nos jours. Mais ces idées, pourtant communément admises, sont-elles véritablement vraies? N'y a-t-il rien que vous deviez faire pour hériter de la vie éternelle? À son époque, les Juifs avaient rejeté le Christ parce qu'ils n'observaient pas la Pâque au bon moment. De ce fait, ils avaient perdu la connaissance de la première étape du plan de Dieu et avaient fait mourir leur Sauveur dans l'ignominie et d'atroces douleurs. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement à l'origine de notre foi, il est aussi celui qui l'amène à la perfection. Il est l'auteur de notre salut, selon Hébreux, chapitre 12, verset 2. Voilà ce que le christianisme traditionnel a oublié. On a ainsi perdu la connaissance de la deuxième étape du plan de Dieu, laquelle nous enjoint de nous débarrasser de nos péchés. Car lorsque nous serons réconciliés avec Dieu, nous devrons grandir dans la grâce et dans la connaissance de Christ, selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Comme M. Weston l'a si bien dit, les jours des pains sans levain représentent en effet notre réponse au grand don de Dieu qui a consenti à ce que son Fils soit sacrifié afin que son sang couvre nos péchés. Dans le sermon d'aujourd'hui, nous verrons donc quelle devrait être cette réponse. Nous devons changer, nous devons croître et nous devons surmonter. Et comme l'Église l'enseigne depuis des décennies, nous devons vaincre notre nature charnelle, vaincre Satan et vaincre l'influence de ce monde. Et nous devons avoir confiance en Dieu qu'il nous donnera la victoire. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Des vainqueurs triomphants ». Durant les pains sans levain, les Israélites étaient sortis d'Égypte, certes, mais non en tant que vainqueurs. Dieu leur avait cependant accordé plusieurs grandes victoires, malgré leur attitude charnelle. Et en ce dernier jour des pains sans levain, il leur accorda une victoire majeure aux abords de la mer Rouge. Et nous aussi, qui nous efforçons de sortir de l'Égypte spirituelle, nous attendons de Dieu qu'il nous accorde des victoires. Car il est un fait que le péché, de même que Satan, ne cesse de nous poursuivre, même après notre baptême. C'est pourquoi nous avons continuellement besoin de la délivrance de Dieu. Tournons-nous vers Exode chapitre 12, où nous voyons ce qui s'est passé à la mer Rouge. Cela s'est passé, au dire des historiens, en 1446 avant Jésus-Christ. Et, cette année-là, la Pâque eut lieu un mardi soir, tout comme en 31 après Jésus-Christ, et tout comme en cette année 2020. Ainsi, la Pâque eut lieu un mardi soir, cette année-là. Normalement, en cette période de l'année, je regarde le film sur les 10 commandements, mais je l'ai manqué cette année. Je trouve ce film passionnant, même s'il contient certaines erreurs historiques et doctrinales. Mais il décrit bien cette oppression des Israélites durant leur esclavage. Bien sûr, il mentionne Ramsès comme étant le pharaon d'Égypte de l'époque, ce qui est faux. Cependant, Yul Brynner a certainement bien projeté l'attitude charnelle du pharaon de l'Exode. À 9 reprises dans le livre de l'Exode, Moïse avait dit à Pharaon « Laisse partir mon peuple ». Vous savez, Dieu a aussi dû nous libérer de l'esclavage du péché, et nous lui en sommes reconnaissants. Après le passage de l'ange de la mort, et la mort qui en résulta pour les premiers-nés des hommes et des animaux, les Égyptiens furent impatients de voir sortir les Israélites de leur pays, comme le mentionne Exode 12, verset 33. Voyons-le, Exode 12, verset 33. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient « Nous périrons tous ». Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Cela devait bien représenter 3 ou 4 millions d'Israélites à l'époque. Et comme M. Weston l'a mentionné dans l'article du Living Church News sur la Pâque, les Israélites ne devaient pas sortir de leur maison avant le lever du jour, en ce 14e jour de Nissan. C'est alors qu'ils ont pillé les Égyptiens. Puis, toujours en ce 14e jour de Nissan, ils se sont tous rassemblés à Ramsès. Et c'est au début du 15e jour de Nissan, la nuit, sous une pleine lune, qu'ils ont quitté Ramsès pour Sukkot. Je suis allé à Ramsès, qui est maintenant un site archéologique, qui porte le nom de Tel El Daba. Nous nous y étions rendus en 1991, notre équipe de télévision du Tomorrow's World et moi-même, avec l'intention de produire une série de 2 films, intitulée « Leçon de l'Exode ». Puis, j'ai accompagné notre équipe de télévision de Ramsès vers Sukkot, qui, là encore, est devenu un site archéologique portant le nom de Tel El Mishkuta. Vous pouvez aller sur Internet et voir le site archéologique de Sukkot. Sukkot signifie bien sûr tabernacle. Les Israélites de l'époque de l'Exode étaient donc sortis d'Égypte de nuit, le 15e jour de Nissan, à la pleine lune, en route pour la terre promise. Lorsqu'ils arrivèrent à la mer Rouge, ils furent pris au piège. Voyons-le, dans Exode chapitre 14. Dieu avait causé cela délibérément. C'était afin qu'ils soient forcés de lui faire confiance pour leur protection. On voit alors le cœur de Pharaon qui s'endurcit et qui se met à les poursuivre. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Verset 11. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ?» Manifestement, ils manquaient de foi. Ils n'avaient pas la vision du plan d'ensemble que Dieu avait conçu pour eux. « Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Ils auraient mieux fait de se taire, car c'est finalement le sort que Dieu leur a réservé. Effectivement, la plupart moururent au désert à cause de leur attitude. Verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Pour nous aussi, il y a eu un moment dans notre vie où nous nous sommes arrêtés et avons compris que Dieu allait combattre pour nous. Il y aura ainsi des moments où nous ne pourrons rien faire et où nous devrons implorer Dieu pour qu'il nous sauve. Avez-vous déjà imploré Dieu pour qu'il vous sauve? On ne s'y tournera pas, mais dans Psaume, chapitre 6, au verset 5 et 6, le roi David a dit, Psaume 6, verset 5 et 6, « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts ?» Ainsi, David a demandé à Dieu de le sauver de la mort en lui donnant une bonne raison de le faire. Cela me fait penser à 1 Pierre chapitre 3, verset 15, qui nous demande de toujours être prêts à nous défendre devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Demandons à Dieu de nous délivrer de nos angoisses. David avait donné à Dieu une raison de le garder en vie, disant, « Si je suis mort, tu ne recevras plus mes louanges et mes remerciements. Il te serait donc avantageux de me garder en vie. » Il a donc demandé à Dieu de le sauver. Dans Psaume chapitre 7, au verset 2, nous lisons, « Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. » À nouveau, avez-vous déjà demandé à Dieu de vous sauver? Vous pouvez certainement le faire quand vous êtes dans le besoin. Je l'ai fait et je suis sûr que vous l'avez fait également. Et Dieu est intervenu. Il nous a délivrés, nous donnant ainsi l'occasion de le remercier. Dans le cas des Israélites au bord de la mer Rouge, Dieu a promis qu'il se battrait pour eux. Ils n'auraient donc besoin ni d'une armée, ni d'armes. Dieu allait combattre pour eux. Dans Matthieu 14, nous avons l'exemple de Pierre qui, voyant Jésus marchait sur l'eau, voulut en faire autant. Jésus lui dit alors, « Viens !» Pierre sortit donc de la barque et se mit à marcher en direction de Jésus. Voyons le Matthieu 14, verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Jésus ignora-t-il alors son appel de détresse ? Non. Verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Il y aura donc des moments où nous serons à court de moyens. Nous crierons alors à Dieu pour qu'il nous sauve. Il est vrai que, parfois, Dieu s'attendra à ce que nous fassions quelque chose, comme nous le voyons au verset suivant. Exode 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. » Il arrivera donc que Dieu attend une action de notre part. Verset 16. « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. » Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Ainsi, Dieu voudra parfois que nous fassions notre part et que nous allions de l'avant. Nous remercions Dieu pour ces jours des pains sans levain, lesquels nous montrent que nous avons un rôle à jouer dans son plan de salut. Exode chapitre 15 est appelé l'hymne de la victoire. Voyons-le. Exode 15, verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Puis au verset 20, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Dieu avait dit qu'il les mettrait à l'épreuve, mais en définitive, il leur a accordé une grande victoire. À nous aussi, Dieu promet des victoires et des triomphes. Parfois, nous avons de petites victoires, parfois, nous en avons de grandes. Durant l'époque des pains sans levain, j'ai eu à relever un petit défi d'ordre technologique. À la maison, nous avons un robot ménager. Un jour, ma femme m'annonce qu'il est défectueux. Lorsque je le branche et que je procède comme d'habitude, il ne se passe rien, me dit-elle, et m'en fait alors une démonstration. J'ai alors débranché l'appareil. Je l'ai retourné et, ce faisant, je découvre un petit interrupteur portant l'indication « marche, arrêt ». Il se trouve que celui-ci était alors sur la position « arrêt ». Voilà qui réglait le problème. Dieu venait de m'accorder une victoire. Vous savez, je suis tout aussi friand de petites victoires que d'autres plus importantes. Quand Dieu nous donne des victoires, cela nous encourage, qu'elles soient petites ou grandes. 2 Corinthiens chapitre 2 mentionne une grande promesse divine, une promesse pour laquelle je prie et que je revendique quotidiennement, peu en importe la forme. En fait, cette promesse s'appliquait à l'apôtre Paul et à son ministère, mais elle s'applique tout autant à nous, si nous voulons revendiquer cette promesse particulière. Voyons-la. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Ainsi, nous sommes en passe d'être sauvés, et les jours des pains sans levain montrent notre part dans le plan de Dieu. Nous avons besoin de victoire. Nous avons besoin de vaincre. Et c'est une merveilleuse promesse de Dieu quand il nous annonce que nous allons triompher en Christ. Revendiquons cette promesse. Je vous encourage à le faire. Vous souvenez-vous encore de cet hymne que nous avions dans notre livre de cantiques au début des années 70? Son titre était « Standing on the Promises »,« Debout sur les promesses ». Je me vois encore diriger les cantiques lors de la fête des tabernacles de 1972, lorsque nous étions plus de 14 000 personnes sous un même chapiteau. C'était tellement inspirant. Je voudrais juste vous lire quelques phrases de ce cantique intitulé « Debout sur les promesses ». Qu'il m'arrive encore de fredonner de temps à autre. Première strophe. Debout sur les promesses de Christ, mon roi, que ses louanges retentissent à travers les âges éternels. Gloire au plus haut des cieux. Je crierai et chanterai debout sur les promesses de Dieu. Vient ensuite le chœur. Deuxième strophe. Debout sur les promesses qui ne feront pas défaut. Quand les tempêtes mugissantes du doute et de la peur assaillent, je triompherai par la parole vivante de Dieu, debout sur les promesses de Dieu. Troisième strophe. Debout sur les promesses de Christ le Seigneur. Lié à lui pour l'éternité, par le solide cordon de l'amour, triomphant quotidiennement grâce à l'épée de l'Esprit, debout sur les promesses de Dieu. C'est là une phrase qu'il m'arrive de répéter. Debout sur les promesses de Dieu, je triomphe chaque jour par l'épée de l'Esprit. Qu'est-ce que l'épée de l'Esprit? C'est la parole de Dieu, la Bible. Et voilà pourquoi il est si important de s'entourer de la vérité, de lire la Bible chaque jour, de se nourrir de ce pain vivant du ciel. Quatrième strophe. Debout sur les promesses, je ne puis tomber. Constamment à l'écoute de l'appel de l'Esprit, je m'en remets intégralement à mon Sauveur, m'appuyant sur les promesses de Dieu. Ainsi, Dieu accorda de grandes victoires et de grands triomphes à Israël, et il y aura des moments où il attendra de nous que nous restions campés sur nos positions, et d'autres où il attendra de nous que nous avancions avec audace. Nous savons qu'Israël fut baptisé dans la mer Rouge. Voyons-le dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ainsi, ils furent baptisés dans la mer. Ils avaient ces remparts d'eau qui les encadraient et cette nuée au-dessus d'eux. Ils étaient totalement entourés d'eau. Ils furent en quelque sorte baptisés dans la mer. Et bien sûr, dès que nous sommes baptisés, Satan vient aussitôt après nous et nous devons alors demander à Dieu de nous accorder la victoire. Israël était en route vers la terre promise, comme nous le sommes vers le royaume de Dieu, notre terre promise. Nous sommes impliqués dans un exode spirituel tous les jours de notre vie. Bien que Dieu leur ait donné un aperçu de la terre promise, comment ont-ils réagi face à cette vision? Quelle est notre vision du royaume de Dieu? Cela nous fait-il penser à cette brochure de Dr. Meredith, « Le monde de demain, à quoi ressemblera-t-il? » La fête des tabernacles que nous célébrons chaque année nous donne-t-elle une vision du royaume de Dieu à venir et de notre rôle dans ce royaume? Veuillez maintenant vous reporter à Nombre, chapitre 13, où Dieu voulait donner à Israël un aperçu de la terre promise. Il avait envoyé 12 éclaireurs pour explorer le pays. Caleb et Josué avaient été les seuls à avoir la foi et une vision claire de ce que Dieu leur offrait. Nombre, chapitre 13, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Le verset 6 mentionne que, parmi eux, se trouvait Caleb, fils de Jéphunné de la tribu de Juda. Ils revinrent après avoir exploré le pays, et ils en ramenèrent un souvenir qui est devenu par la suite une sorte d'emblème qui représente deux hommes tenant cette longue perche où est attachée une énorme grappe de raisin. Verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Lorsqu'ils revinrent, ils firent un rapport à propos de ce pays où coule le lait et le miel. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ces gens leur inspiraient visiblement de la crainte. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » C'est là le message que nous devrions retenir du sermon d'aujourd'hui. Comme l'exprime le verset 30, « Ayons l'attitude de Caleb qui déclarait, « Nous sommes bien capables de surmonter ces défis, nous serons victorieux. » En déclarant, « Nous sommes bien capables de surmonter ces défis », Caleb ne prétendait pas s'en remettre uniquement à leur seule force humaine. Caleb et Josué avaient une vision claire des choses. Ils se souvenaient de leur passage à travers la mer Rouge, où Dieu leur avait accordé une grande victoire. Ils avaient alors été témoins de la puissance de Dieu. Caleb pouvait donc avoir une attitude positive. Voyons cependant quelle fut la réaction des Israélites. Nous lisons peu après que ceux-ci étaient sur le point de les lapider. Pourtant, dans Nombre, chapitre 14, Caleb n'avait-il pas dit, Nombre 14, verset 8, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. » C'était là l'opinion de Caleb. « Ne les craignez pas, disait-il. » Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? » Voici un autre événement étonnant dans toute cette histoire de salut, si vous voulez l'appeler ainsi. Dieu s'apprêtait ici à faire mourir tous les Israélites. Verset 12. Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Mais quelle a été la réponse de Moïse? Nous savons qu'il a dû supporter ce peuple charnel depuis le début, et que ce n'était pas la première fois qu'un tel événement se produisait, que Moïse ait eu à intercéder pour eux. Ici, Dieu lui dit, « Moïse, je ferai de toi une grande nation. » A-t-il alors répondu, « Oui, Seigneur, anéantis-les et fais de moi une grande nation. » Non. Notez ce caractère étonnant que Moïse va manifester en intercédant pour eux, suppliant Dieu de leur épargner la vie. Verset 13. Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. » Ici, Moïse donne à Dieu une raison de ne pas tuer ce peuple charnel. Et au verset 19, il ajoute, « Pardonne l'iniquité de ce peuple. » Comment Dieu réagit-il à ce plaidoyer? Verset 20. Et l'Éternel dit, « Je pardonne, comme tu l'as demandé. » Voyez combien grande sera la place que Moïse occupera dans le royaume de Dieu. Le reste du chapitre 14 montre comment Dieu a ensuite béni Caleb et Josué. Vous, les jeunes parmi nous, portez une attention particulière à ce que Dieu dit au verset 29 et 30. Verset 29. « Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont il a été fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphouné, et Josué, fils de Noun. » Ainsi, les adolescents allaient être exemptés du châtiment qui frapperait la nation au cours de ces 40 années d'errance, durant lesquelles tout le peuple allait mourir, sauf ceux de moins de 20 ans, et à l'exception de Caleb et de Josué. Dieu avait donc envoyé ses 12 espions dans la terre promise. Il l'avait aimée, elle était grande, mais la plupart d'entre eux n'avaient pas une vision d'ensemble de toutes ces bénédictions qui les attendaient. Ils n'avaient certainement pas l'attitude de Caleb qui disait « Nous sommes bien capables de nous en emparer ». Il nous faut donc avoir une telle attitude. Il nous faut avoir cette attitude qui nous permet de surmonter et de faire preuve d'audace. Il nous faut avoir la foi et une attitude positive pour surmonter. Il faut que notre lutte conduise à la victoire. Au fait, si vous allez sur notre site web lcg.org, vous y trouverez quantité de sermons sur le thème du dépassement de soi. Ainsi, vous y verrez le sermon 1095 qui date de l'année dernière. 7 changements que les vainqueurs devront apporter à leur vie. Il nous vient de Dr. Douglas Winnell. C'est un excellent sermon et je vous recommande de l'écouter. Et puis, il y a ce sermon de M. Rick Stafford qui date du 14 mars 2020 et dont le titre est « Un état d'esprit de vainqueur ». Il y a aussi ce sermon de M. Weston qu'il a donné à l'occasion des Pains sans levain de 2019 et dont le titre est « En route de l'Égypte vers la terre promise ». Ainsi, en nous appelant Dieu s'attend à ce que nous soyons des vainqueurs. Si vous qui vivez aujourd'hui aviez été un de ces 3 ou 4 millions d'Israélites de l'époque de Moïse, auriez-vous manifesté la foi de Caleb et de Josué? En ces temps de la fin, il nous faut un autre type de courage. Le monde autour de nous s'écroule. Il n'y a que désastre et confusion. Et pourtant, Dieu veut que nous ayons un esprit sain, de même qu'une vision claire de ce qu'il nous prépare, l'avènement de son royaume. Dans l'édition de juillet-août 2019 de notre revue « Le monde de demain », M. Gerald Weston a écrit un article intitulé « Une autre sorte de courage ». Il y écrivait, je cite, « Notre société change, et le fait de s'opposer à ce qui est répréhensible demande du courage. Êtes-vous prêt à faire les sacrifices nécessaires? Par ailleurs, toujours sur notre site web lcg.org, nous avons aussi une enquête récente conduite par Dr. Jeff Fall, dont le titre est « Un acte de courage ». L'un de mes poètes préférés est Edgar Guest. Il a écrit ce poème intitulé « Courage, courage, courage ». Que j'aimerais vous lire à présent. Il dit « Quand le fardeau devient lourd et que le chemin est rude, quand vous chancelez et glissez, que ce n'est pas votre jour et que votre meilleur effort n'est pas à la hauteur, quand vous savez dans votre cœur que la fatigue vous gagne et que tout est contre vous, il n'y a qu'une chose à faire. Il s'agira alors de mobiliser tout votre courage pour mener cette chose à terme. » Qui se bat pour la victoire s'expose à la défaite. Le malheur est une chose que nous devrons tous affronter un jour. Acceptez la défaite avec la grâce dont vous feriez preuve en cas de succès. Lorsque les choses vont mal, ne vous plaignez pas et ne gémissez pas. Faites appel à votre courage et souriez si vous en êtes capable. Si vous ne pouvez réussir, au moins n'échouez pas en tant qu'être humain. Il y aura des jours sombres et orageux. Il nous arrivera tous, un jour ou l'autre, que tous nos espoirs sembleront perdus et sur le point de s'effondrer. Mais tenez bon face à toute adversité. Tous, il nous faut accepter de boire l'amer aussi bien que le doux. Voici comment votre courage sera mis à l'épreuve. Que ferez-vous à l'heure où les revers vous assailliront? La malédiction ou le regret ne changeront pas l'issue d'un combat. Il vous faudra affronter la fin, peu importe, que vous le fassiez en gémissant ou en pleurnichant. Celui qui mène un bon combat, quand bien même il se battrait en vain, aura beaucoup de victoires à son actif en compensation de ses douleurs. Prenez donc vos revers comme faisant partie du plan que Dieu a conçu en créant l'homme. C'était là ce poème intitulé « Courage, courage, courage ». que nous devons à Edgar Guest. Ma femme m'a fait la remarque suivante. « Ne manque-t-il pas quelque chose au tableau ? Le poète semble faire uniquement appel au courage en cas de difficulté. Pourquoi n'invoque-t-il pas l'aide de Dieu ? N'est-ce pas Dieu qui nous donnera le courage d'aller de l'avant ? Les jours des pains sans levain nous apprennent à remplacer la nature humaine par la nature altruiste de Dieu. N'oublions pas cette attitude positive de vainqueur dont avait fait preuve Caleb lorsqu'il s'était écrié spontanément « Emparons-nous promptement du pays ». Allons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 5 et posons-nous la question « Sommes-nous déterminés à surmonter ?» 1 Corinthiens 5 contient des leçons qu'il est très approprié de lire en ces derniers jours des pains sans levain. Voyons donc 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ainsi, pour nous qui avons observé la Pâque du Nouveau Testament, le sang du Christ a été versé pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Dieu nous donne ici un aperçu de la signification profonde des jours des pains sans levain. Quand on parle de faire disparaître le levain de la malice et de la méchanceté, de quoi s'agit-il ? De la nature humaine. Et par quoi doit-on la remplacer ? Par le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Oui, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous comprenons donc qu'il nous faut remplacer la nature humaine par la nature de Dieu. Et c'est un miracle qui est en train de se produire ici. Dans un de ses sermons, M. Weston a mentionné quelque chose qui s'était produit alors qu'un de nos ministres rendait visite à une personne qui s'intéressait à ce que nous prêchons. À un moment donné, cette personne avait demandé à voir un miracle. Elle avait dit « Je veux voir un miracle, et cela à l'instant même. » Comment auriez-vous répondu à pareille demande ? Pour ma part, je lui aurais répondu « Mais vous avez vu un miracle ? Je suis un miracle. Tous les membres de notre Église sont des miracles, en ce sens qu'ils ont changé de caractère, qu'ils ont passé de leur nature charnelle à la nature divine. Oui, d'égoïstes que nous étions, nous en sommes venus à nous offrir en sacrifice vivant, à renoncer à nous-mêmes. Un miracle a donc eu lieu, et c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Souvenez-vous que c'est le sang de Christ qui nous purifie, selon ce qui est dit dans 1 Jean, chapitre 1 et le verset 7. Voyons-le. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est par son Saint-Esprit que Dieu forme sa nature divine en nous. Ainsi, nous sommes tous autant de miracles. M. Weston nous a encouragés à lire la brochure inspirante de Dr. Meredith intitulée « Votre ultime destinée ». Il a d'ailleurs reformulé cet encouragement dans la lettre qu'il a adressée à nos co-ouvriers le 13 avril. Voici ce que M. Weston y disait. « Ce monde a désespérément besoin de la bonne nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu. » Cette bonne nouvelle correspond à bien plus qu'une retraite psychédélique éternelle, là-haut dans les nuages. Cette brochure permet de comprendre l'avenir fantastique que Dieu prépare à l'humanité. Ce qu'il a en vue pour nous dépasse l'imagination. N'oubliez pas de commander cette brochure gratuite si vous ne l'avez pas déjà. J'aimerais à présent vous en lire un extrait qui se trouve à la page 5. Alors, combien de temps durera ce mandat que nous avons de surmonter notre nature charnelle? Après avoir cité Apocalypse 20, verset 6, qui fait référence à notre règne millénaire avec Christ, Dr. Meredith écrit ceci à la page 5. Les véritables saints sont appelés par Dieu et entraînés par lui tout au long d'une vie de lutte et de victoire pour se joindre à Jésus-Christ afin de gouverner les villes et les nations sur cette terre. Peut-on être plus clair? Pourtant, d'une façon ou d'une autre, beaucoup de gens qui ont été mal conseillés, y compris des théologiens, croient encore à ce concept de ne rien faire durant toute l'éternité. Ils ne savent pas que les véritables chrétiens sont appelés dans un but merveilleux, passionnant et grandiose. Pour l'atteindre, il leur faudra surmonter avec l'épée de l'esprit. Et que nous faudra-t-il surmonter? De tout temps, l'Église nous a enseigné qu'il y a trois ennemis que nous devons surmonter, et Dr. Meredith nous les décrit à la page 7 de cette brochure. Je cite. Le véritable chrétien doit vaincre sa propre vanité et ses passions. Il doit vaincre le monde et ses tentations. Finalement, il doit résister à Satan. L'apôtre Pierre a conclu sa dernière épître avec l'injonction suivante. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Ceci est de 2 Pierre chapitre 3, verset 18. C'est là l'un des thèmes majeurs des jours des pains sans levain. Cela dit, discutons brièvement de la manière de surmonter chacun de ces trois ennemis, nous-mêmes, Satan et la société qui nous entoure. Quand nous réfléchissons à la manière de vaincre Satan, reconnaissons tout d'abord ce qu'est le péché et la tentation. Comment allons-nous vaincre Satan? En reconnaissant le péché et en reconnaissant les tentations qui s'ensuivent. Cela se manifestera même durant les pains sans levain. Par exemple, certains ont raconté comment ils avaient par inadvertance commandé un hamburger pendant les jours des pains sans levain et qu'ils en avaient mangé, quelque chose contenant manifestement du levain. Quel était le problème? C'était de la pure distraction. Nous ne devons pas être distraits quand il s'agit d'identifier le péché. Les jours des pains sans levain sont pour nous une occasion d'exercer une vigilance constante. Ainsi, ceux qui veulent vaincre Satan doivent reconnaître le péché et ses tentations. Nous devons également être à l'affût de toute mauvaise pensée que Satan pourrait introduire dans notre esprit. Dans l'édition anglaise du LCN de janvier-février 2020, M. Weston a écrit un article dont le titre était « Êtes-vous séduit par l'info-publicité de Satan ?» Nous avons aussi ce sermon qu'il a donné sur le même thème. C'était le 6 mars 2020. Par ailleurs, M. Weston a encore donné ce sermon intitulé « Les trois tentations du Christ », sermon où il montre comment nous pouvons vaincre Satan, comme Jésus l'a fait. Ce que nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 4 et aussi Luc chapitre 4. C'est avec l'épée de l'Esprit que Jésus avait triomphé de ces trois tentations. Jésus y avait dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Tournons-nous maintenant vers 1 Jean chapitre 2. Comment allons-nous vaincre Satan? Dieu nous donne le pouvoir et la promesse de vaincre Satan. 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Remercions Dieu pour cela. Nous venons de célébrer la Pâque et j'en profite pour vous demander de m'excuser, vous tous que j'ai pu offenser. Je sais que parfois nous offensons des gens et péchons à leur égard à notre insu. Alors je vous prie de me pardonner si j'ai blessé certains d'entre vous, si j'ai péché envers vous. Nous le savons, nous devons nous pardonner réciproquement. Nous devons nous aimer et remercier Dieu de ce que nos péchés nous soient pardonnés. Verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Pouvons-nous donc vaincre Satan? Absolument. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Ainsi, Dieu dit, oui, vous pouvez vaincre le méchant. Comment? Parce que la parole de Dieu est en vous. Et vous êtes spirituellement forts, parce que la parole de Dieu fait partie intégrante de votre caractère, de votre pensée et de votre esprit. Et nous savons que Dieu nous en fait la promesse formelle dans Jacques chapitre 4. Voyons-le. Jacques chapitre 4 et le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pas seulement jusqu'à être à 2 mètres de nous, comme pour exercer la distanciation à laquelle on nous a habitués récemment, mais loin de nous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous pouvons donc vaincre Satan et l'éloigner de nous si nous nous servons de l'épée de l'Esprit, si la parole de Dieu demeure en nous et si nous reconnaissons le péché et résistons pleinement aux tentations. Ainsi, nous pouvons vaincre Satan. Et en fait, il nous est déjà arrivé de le faire. Mais il nous faut aussi vaincre le monde qui nous entoure. Voyons pour cela 1 Jean chapitre 2. Nous avons déjà eu plusieurs sermons à ce sujet, et M. Weston a fait l'analogie entre 1 Jean chapitre 2 d'une part, et Adam et Ève dans le jardin d'Éden, de même que les 3 tentations du Christ d'autre part. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Oui, cela n'est pas du Père, car le Père est amour. Et cet amour est défini par les 10 commandements, que l'on peut résumer en disant « Aimer Dieu de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. » C'est cela, la voie du Père. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il nous faut donc surmonter, il nous faut vaincre. Nous avons eu un sermon de M. Weston intitulé « Souvenez-vous de la femme de Lot », selon les instructions de Jésus dans Luc 17, verset 32. Pourquoi Jésus avait-il dit cela? C'est parce que la femme de Lot aimait le monde et qu'elle voulait retourner dans ce monde d'où elle venait. Elle ne pouvait pas distinguer les valeurs spirituelles d'importance par opposition aux valeurs charnelles, et c'est pourquoi elle fut transformée en une statue de sel. Et nous connaissons aussi ce récit à propos de l'homme riche, dont parle Matthieu 19, verset 17, et comment ce dernier avait demandé « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui avait alors répondu en citant plusieurs des 10 commandements. Notez cependant que, ce faisant, Jésus avait intentionnellement omis le 10e commandement. Finalement, Jésus lui avait dit que, s'il voulait être parfait, il devait vendre tout ce qu'il possédait et le donner aux pauvres, pour s'amasser un trésor dans le ciel, puis de le suivre. Hélas, comme le dit Matthieu 19, verset 22, lorsque le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Pourtant, n'avait-il pas dit au verset 20 qu'il avait observé tous ses commandements depuis sa jeunesse? Peut-être, mais pas ce 10e commandement, que Jésus n'avait pas mentionné à dessein. Il avait donc échoué au test. Nous, frères et sœurs, nous ne devons pas échouer aux tests qui nous arriveront. Nous devons être des vainqueurs et vaincre chaque jour par l'épée de l'Esprit. Toujours dans le cadre de cette victoire que nous devons remporter sur le monde, il y a aussi cet article de M. Weston qui a paru dans notre revue du Monde de demain de mai-juin 2018 et dont le titre était « Dompter le monstre des réseaux sociaux ». Comment allons-nous vaincre le monde? Nous devrons pour cela commencer par identifier les tentations de la société, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Soyons aussi reconnaissants à Dieu pour cette déclaration qui est d'ordinaire lue durant la cérémonie de la Pâque, laquelle se trouve dans Jean chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si donc Christ a vaincu le monde, vous le pouvez aussi. Nous ne nous y reporterons pas, mais Romains chapitre 12, verset 21, ne dit-il pas « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Il nous faut donc vaincre Satan ainsi que le monde et ses tentations. Enfin, nous devons aussi vaincre notre nature humaine, notre moi, notre égoïsme et le péché. Là encore, on ne s'y reportera pas, mais le psaume 39, verset 6, est l'un de ces passages qui parle de la nature humaine. David y dit « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle, ou n'est que vanité, selon d'autres versions bibliques. » Nous devons donc nous examiner et nous assurer que nous surmontons notre nature humaine. De fait, c'est là le titre de l'un de nos sermons sur le sujet. Sept changements que les vainqueurs doivent opérer. Il se trouve sur notre site internet anglophone et nous le devons à Dr. Douglas Winnell. Oui, nous pouvons vaincre. L'apôtre Paul avait lui aussi des problèmes avec sa nature humaine, comme il nous le dit dans Romains chapitre 7. Les commentateurs ont de la difficulté à comprendre cela, car ils se disent « S'il est sauvé, pourquoi a-t-il ce problème avec la nature humaine ?» Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le salut implique de notre part une lutte constante jusqu'au terme de notre vie dans la chair. Romains 7, verset 12. Romains 7, verset 12 dit « La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Plus loin, au verset 18, nous lisons, Romains 7, verset 18, en fait 18 à 21, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est donc plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le mal est attaché à moi. Car, verset 22, je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. » Il est ici question de Paul, un apôtre de Christ, et vous vous rendez compte qu'il doit lui aussi lutter contre la nature charnelle. Il s'exclame ensuite, « Qui me délivrera de ce corps de mort ? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi donc, avec l'Esprit, je sers moi-même la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. Dieu écrivait alors ses lois dans son cœur, et il continue de le faire en nous si nous luttons quotidiennement contre la chair. Il nous faut donc continuer de lutter contre le péché, vaincre Satan, vaincre la société et vaincre notre nature humaine. Ainsi, nous remplaçons le levain de la malice et de la méchanceté par le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Nous devons continuer à grandir spirituellement chaque jour, et nous aurons parfois des revers sur le plan spirituel. Ce sera alors le moment approprié pour jeûner et de rechercher Dieu de tout notre cœur. Il nous faut faire une provision quotidienne de l'Esprit de Dieu. Dans Luc chapitre 11, verset 13, Dieu nous fait une promesse merveilleuse. Il dit, Luc 11, verset 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc, il nous faut être des vainqueurs. Il nous faut ce pouvoir de vaincre, et les jours des pains sans levain nous encouragent à vaincre ces trois ennemis, notre moi, Satan et la société qui nous entoure. Dieu nous soutient dans cette lutte. Rendons-nous à Romains chapitre 8. Comme vous le savez, la fête de la Pentecôte se concentre sur les premiers fruits, mais aussi sur la puissance de Dieu et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on entend par la puissance de l'Esprit-Saint de Dieu? C'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance de l'amour. C'est la puissance par laquelle le Père a engendré ses fils et ses filles. C'est la puissance de la création. C'est la puissance par laquelle Jésus-Christ soutient l'univers. Et il le fait par sa parole puissante. C'est par cette puissance que Dieu nous soutient, et selon Hébreux chapitre 1, c'est par cette puissance que Dieu nous donne le pouvoir de vaincre. Voyons aussi Romains 8, verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Effectivement, nous passons tous par diverses épreuves, des problèmes de santé, des problèmes financiers, des persécutions. Verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Jésus-Christ est notre Sauveur vivant, et c'est par sa vie, par sa puissance en nous, que nous sommes capables de vaincre. Lorsque, pendant 7 jours, nous mangeons des pains sans levain, nous pensons à Jésus-Christ en tant que le pain de vie. Et bien sûr, simultanément, lorsque nous pensons au pain sans levain de la sincérité et de la vérité, nous pensons à la nature divine, au caractère divin. Nous comprenons que Christ, en nous, est ce qu'on entend par le mystère de Christ, tel qu'énoncé dans Colossiens chapitre 1. Tournons-nous maintenant vers 1 Jean chapitre 2, verset 24. 1 Jean 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Ce n'est donc pas seulement Christ qui va demeurer en nous. Nous demeurerons en fait dans le Père et le Fils. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Puis au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Il s'agit du Saint-Esprit. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Entre parenthèses, une fois un étudiant a dit, « Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne, car n'est-il pas dit ici que nous n'avons pas besoin de nous faire enseigner ?» Pourtant, que faisait Jean ici? Ne leur enseignait-il pas selon les Écritures? Comprenez que Jean parlait ici de faux enseignants, et nous n'avons pas besoin d'écouter ce que disent les faux enseignants. C'est dans ce contexte qu'il nous faut considérer ces épîtres de Jean, lesquelles s'adressent en fait à des agnostiques. Reprenons le verset 27. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Avons-nous cette confiance lorsque nous acceptons la correction de Dieu? Nous confessons nos péchés et nous acceptons son pardon selon ce qui est dit dans Jean chapitre 1 verset 7, à savoir que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Mais nous devons être déterminés à surmonter, déterminés à aller de l'avant. Nous avons cette confiance en lui que nous n'aurons pas à avoir honte en sa présence lors de sa venue. Et ce concept se poursuit dans 1 Jean chapitre 3 verset 4. Voyons-le. 1 Jean chapitre 3 verset 4 à 7. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Ainsi, il attend de nous que nous pratiquions la justice. Et il dit que ceux qui ne pratiquent pas la justice ne demeurent pas en lui. Continuons dans 1 Jean chapitre 4 verset 12. 1 Jean chapitre 4 verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Il semble assez étrange qu'on nous demande de demeurer en lui alors qu'il vit en nous. Comment cela est-il possible? Par son esprit qu'il nous donne. Ainsi, remercions Dieu pour ce pouvoir de vaincre qu'il nous accorde. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Il y a d'autres passages importants comme ceci, et nous allons en examiner quelques-uns de plus. Celui qui, selon moi, est particulièrement encourageant et peut nous donner le pouvoir de vaincre, est en fait devenu un chant chrétien assez populaire. Il est tiré de 1 Jean chapitre 4, verset 4. Voyons-le. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parlant de l'esprit de l'Antéchrist. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est toute une promesse que Dieu nous donne là. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyons encore 1 Jean chapitre 5 verset 4, qui nous parle de la victoire que nous aurons en surmontant. 1 Jean 5 verset 4 et 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Dieu nous commande donc de vaincre, de surmonter, et il nous donne le pouvoir et le moyen de le faire. Ainsi, lorsque nous mangeons du pain sans levain, nous pensons au pain sans levain vivant du ciel, au pain sans levain, exempt de péché du Christ. Et nous nous souvenons de la puissance que Dieu nous donne par son esprit, que nous demeurons en lui, que nous vivons en lui, et qu'il vit en nous. Voyons aussi Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce sont là de puissants outils pour surmonter. Cela me rappelle une sermonnette que quelqu'un avait donnée. Celle-ci m'avait aidé à me souvenir de ces quatre outils pour vaincre. Il avait fait une analogie avec une voiture et ses quatre roues. Et nous avons bien sûr besoin de quatre roues. Et il a alors établi un parallèle entre ces quatre roues et ces quatre ressources qu'on nous accorde pour vaincre, à savoir la prière, le jeûne, la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Dr. Meredith en parle aux pages 15 et 16 de votre ultime destinée, dont je vais vous lire un extrait. Il y disait « Il est évident que le but essentiel de la vie est de réconcilier l'homme avec Dieu. Le Saint-Esprit guide une personne à travers tout un processus d'abandon total à Dieu et au Sauveur Jésus-Christ. Par l'Esprit, une personne croit dans la grâce et la connaissance, dans le caractère de Jésus-Christ. » 2 Pierre 3, verset 18. Avec l'aide de Dieu, ce processus implique que l'on s'efforce de vaincre et que l'on apprenne à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Pour qu'une personne puisse se rapprocher de Dieu, elle doit étudier attentivement la Bible, s'en nourrir en quelque sorte. Jean 6, verset 56 à 63. Afin que les enseignements divins deviennent véritablement son mode de pensée et d'action. Vaincre implique prier Dieu régulièrement et sincèrement chaque jour, souvent même plusieurs fois par jour, et être toujours dans un esprit de prière. Cela implique de méditer constamment sur la parole de Dieu et de son but, ainsi que des jeûnes occasionnels afin de se rapprocher davantage de Dieu. De cette façon-là, et par une soumission quotidienne et proactive pour laisser Christ vivre véritablement sa vie en nous, par son Saint-Esprit, Galates 2, verset 20, les véritables chrétiens apprennent à marcher avec Dieu. Mois après mois, année après année, ils deviennent de plus en plus semblables à lui. Fin de la citation. Je veux encore vous donner quelques autres passages qui m'apparaissent importants. Tournons-nous vers Jean chapitre 14, où l'apôtre Jean parle beaucoup de Dieu, pas seulement de Christ en nous, mais aussi de Dieu le Père en nous. Voyons donc Jean 14, verset 23, un passage qui est lu d'ordinaire lors de la Pâque. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » C'était en réponse à la question de Judas, qui venait de lui demander, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ? » Ainsi, Dieu promet de vivre en nous, et Christ y sera aussi, avec lui. Nous sommes tous familiers avec cette parabole de la vigne, Christ étant la vigne et nous les sarments. Cela se trouve dans Jean chapitre 15 au verset 4, où nous lisons Jean 15 verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Vous vous rendez compte que l'apôtre Jean avait cela profondément ancré dans son esprit, et c'est pourquoi il en parle beaucoup, notamment dans sa première épître au chapitre 4, que nous avons considéré précédemment. À nouveau, Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Ainsi, frères et sœurs, nous devons toujours demeurer attachés à cette vigne. Et il va parfois nous émonder, nous serons corrigés, et nous accepterons cette correction, et en profiterons pour porter encore davantage de fruits. Nous avons un rosier qui est situé dans un coin de notre maison. Il a été émondé à un moment donné, et cependant, encore aujourd'hui, il croule sous le poids de ses nombreux boutons de rose, à tel point qu'il porte 7 boutons de rose rien que sur une petite branche minuscule. Dieu doit vraiment nous aimer quand nous portons beaucoup de fruits. Dans ce cas, il s'agit évidemment du fruit de son Esprit Saint, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est là le fruit que nous devons porter. Nous aimons les frères. Nous accomplissons sa grande mission en participant à son œuvre et en avertissant le monde par l'intermédiaire du vrai Sauveur du monde, Jésus-Christ. Nous avons déjà vu dans Romains chapitre 8 que nous sommes plus que des vainqueurs par celui qui nous aime. Nous avons vu que Dieu a commandé à Israël de rester immobile, mais qu'il lui a ensuite dit d'aller de l'avant. Prions pour avoir le discernement nécessaire pour savoir quand nous devons nous arrêter et quand nous devons aller de l'avant. Nous sommes impliqués dans un exode quotidien. Débarrassons-nous de plus en plus du levain. Soyons encouragés par la présence de Christ en nous et ayons les regards fixés sur la victoire finale. Veuillez à présent vous tourner vers Apocalypse chapitre 15, où il est question de notre présence sur la mer de verre. C'est parce que, lors des noces de Christ, nous serons son épouse. Apocalypse 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête. Les jours des pains sans levain montrent que nous pouvons et devons être victorieux. À nouveau, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Remercions Dieu, car si nous persévérons, si nous conquérons et devenons des vainqueurs, nous serons debout sur cette mer de verre. Mais il y a encore une dernière victoire à considérer, et vous savez ce que c'est. Il en est question dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ce sera la grande et dernière victoire. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et nous avons déjà amorcé ce processus de changement du fait que nous nous efforçons de surmonter notre nature humaine. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire ». Notre victoire finale sera notre transformation de mortel à immortel, lorsque nous serons nés dans la famille de Dieu à la dernière trompette. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Les Israélites étaient complètement sortis d'Égypte le 7e jour des pains sans levain, lorsque Dieu les fit passer à travers la mer Rouge. Hélas, ils n'ont jamais complètement laissé l'Égypte derrière eux. Ils n'ont pas vaincu le péché. Dans Matthieu 5, verset 48, Dieu nous dit de devenir parfaits comme notre Père céleste est parfait. Cela signifie refléter son amour inconditionnel et son caractère. 2 Pierre chapitre 1 verset 4 nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine. Et puis nous avons aussi ces promesses dans Hébreux 13 verset 5, où Dieu nous dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». De même, dans Matthieu 28 verset 20, il nous promet « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Enfin, comme l'a dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4 verset 13, tandis qu'il était dans les chaînes, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Vers la fin de la brochure « Votre ultime destinée », à la page 26, Dr. Meredith nous transmettait ce message très sincère. « De tout mon cœur et de tout mon être, je vous encourage à le rechercher avec diligence. Ne permettez pas à quoi que ce soit d'être placé avant Dieu et son but merveilleux pour votre vie. Apprenez à étudier la Bible comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, à vous mettre à genoux devant le gouverneur suprême de l'univers et à épancher littéralement votre cœur en prière, afin d'obtenir l'amour, la sagesse et la force d'être un véritable vainqueur et de devenir son véritable enfant dans son royaume, lequel sera bientôt instauré sur cette terre. Dieu nous accordera la victoire ultime, à condition que nous gardions les yeux sur son grand plan d'ensemble, la terre promise et le royaume de Dieu. » Frères et sœurs, appliquons-nous à être des vainqueurs triomphants et mangeons de ces pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Reposons-nous sur ces formidables promesses dont il est question dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, allons de l'avant et marchons dans la foi, avec élan, détermination et dévouement, tout en accomplissant l'œuvre de Dieu. Rendons grâce à Dieu de faire partie de l'Église des pardonnés, et efforçons-nous d'être l'Église des vainqueurs.